Le journal de la rédaction par vous, Maxime Fayolle, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Le gouvernement entérine la fermeture de Ford Blanquefort. Le constructeur américain a refusé une nouvelle offre de reprise de son site girondin, ce qui provoque la colère du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ford va devoir payer, annonce-t-il, évoquant l'avenir du site de Blanquefort.
Et puis la suite du grand débat national. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui 170 élus locaux venus de la région Grand Est à l'Élysée. Il ne sera pas seulement question des gilets jaunes, mais aussi des actions du chef de l'État dans la région depuis le début du quinquennat.
Nous irons au Vietnam, pays où se déroule la seconde rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, un sommet crucial pour l'avenir de la péninsule coréenne et dont le Vietnam entend bien tirer parti. Et à 7h15, après ce journal, Florian, la question du jour.
Train et territoire, peut-on faire revivre les petites lignes ?
À tout à l'heure. Que va devenir le site de Ford à Blanquefort en Gironde? Le constructeur américain a rejeté hier une nouvelle offre de reprise du site par l'entreprise Punch. Une décision jugée indigne par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui cherche maintenant à imaginer l'avenir pour le site mais aussi pour les 800 salariés concernés, Marie Vienneau.
Ford Aquitaine Industries va fermer, c'est maintenant une certitude. Ford attend l'homologation de son plan de sauvegarde de l'emploi par les services de l'État au plus tard le 4 mars. Ils ont déjà refusé une fois, mais ce serait une surprise s'ils le faisaient à nouveau. Départ en pré-retraite, licenciement et accompagnement ou reclassement dans une usine voisine, ce sont les trois options pour les 850 salariés de l'usine de Blanquefort. Dans le meilleur des cas, le groupe de travail qui va se mettre en place aura trouvé une solution industrielle pour le site, peut-être même avec Punch, l'industriel qui voulait la reprendre, mais il ne faudra plus compter sur Ford pour passer des commandes, laisser ses machines ou aider financièrement à la reprise de l'usine. Sur qui faudra-t-il compter ? La CGT aurait souhaité que l'État pilote un futur projet industriel, mais ce n'est pas la vocation de l'État, a clairement répondu le ministre des Finances. En revanche, il promet que Ford s'acquittera de ses obligations légales. Bruno Le Maire.
Ford doit payer ce qu'il doit aux salariés. Et nous voulons que le plan social des salariés soit le plus solide possible pour l'ensemble des salariés de Ford. Ford doit payer pour le site et garantir la dépollution du site. Et Ford doit payer pour le territoire en amenant les fonds nécessaires à la réindustrialisation du site de Ford Blanquefort.
Dans un communiqué, Ford promet de travailler avec les services de l'État sur un vaste plan de réindustrialisation destiné à réduire l'impact de son départ sur la collectivité locale. Le dialogue n'est donc pas totalement rompu avec la multinationale américaine. Même si les relations ne sont pas au beau fixe, il faut compter encore sur elle, car Ford reste copropriétaire avec un Canadien de l'usine voisine de celle de Blanquefort, usine où travaillent encore près de 1000 salariés.
Marie Vienneau et autres partis qui se jouent aujourd'hui dans un dossier similaire. Une réunion à Bercy entre Bruno Le Maire et les syndicats d'Ascoval. L'acierie nordiste attend elle aussi un repreneur après l'échec des négociations avec Altifor. Une nouvelle demande de remise en liberté d'Alexandre Benalla et de son compère Vincent Kras est étudiée aujourd'hui par la justice. Les deux hommes sont incarcérés suite à la violation de leur contrôle judiciaire. Ils ne devaient pas se voir. Une obligation enfreinte, comme l'a révélé Mediapart. Les avocats de Vincent Kras et d'Alexandre Benalla vont tenter une nouvelle fois de contester la légalité de ces enregistrements pour libérer les deux hommes.
Et de son côté, Emmanuel Macron continue ses rencontres avec des élus dans le cadre du grand débat national.
Le chef de l'État reçoit 170 élus du Grand Est ce midi à l'Élysée. Des maires, des présidents, des 10 conseils départementaux, mais aussi le président de la région Grand Est. Un déjeuner qui a pour but de faire entendre les protestations des citoyens en pleine crise des gilets jaunes, mais pas uniquement. Anne Fauquemberg, c'est aussi l'occasion pour Emmanuel Macron de voir les conséquences de ses actions pour la région depuis le début de son quinquennat.
Le Grand Est, c'est la zone géographique qui a été la plus visitée par le chef de l'État depuis le début de son mandat. Il s'y est rendu 15 fois selon l'Élysée et en particulier à l'occasion de la tournée organisée pour les 100 ans de l'armistice de 1918 qui avait commencé à Strasbourg. Une tournée au cours de laquelle Emmanuel Macron avait soigné les élus locaux, à Charleville-Mézières par exemple, en poussant la reprise des anciens terrains de PSA par le groupe algérien C'est Vital. Le chef de l'État qui s'était aussi rendu à Saint-Dié-des-Vosges en avril dernier pour lancer une opération de rénovation de logements dans le centre-ville. Il devrait s'inquiéter de l'avancée des travaux, mais aussi des projets plus structurants pour la région, comme celui de la transformation du site de Fessenheim. La centrale nucléaire et ses deux réacteurs doivent fermer à l'été 2020. L'État vient d'apporter 20 millions d'euros supplémentaires au projet de reconversion. Il s'agit pour Emmanuel Macron de tenir en haleine les 170 élus mobilisés pour cette 8e rencontre. Des élus qui se disent parfois un peu lassés par ce grand débat qui s'éternise, alors que certains d'entre eux ont remis au gouvernement leur cahier de doléances il y a déjà plusieurs semaines. L'un des maires concernés constatait hier soir une forme de stratégie d'usure menée par l'Élysée. Les maires qui ont donc bien réfléchi à la tournure de leurs questions. Des questions fermées pour pousser le chef de l'État dans ses retranchements et avoir des réponses claires sur l'issue de toutes ces heures d'échange.
Anne Fauquemberg et Emmanuel Macron qui se rendra vendredi en Nouvelle-Aquitaine pour la suite de ces concertations du grand débat national. Au procès de Medine Mouche, le réquisitoire continue aujourd'hui. 7e semaine d'audience de ce procès de la tuerie du musée juif de Bruxelles. C'était en 2014. Medine Mouche nie toujours être l'auteur de cette fusillade. Une version déconstruite hier par le parquet fédéral belge. Le hasard a ses limites, a déclaré hier le procureur qui s'est forgé une conviction, Antoine Marette.
Le procureur fédéral annonce qu'il va démolir un muret d'approximation. La défense montre du doigt l'absence d'ADN de Medine Mouche sur la porte du musée, alors que la vidéo montre le tueur la manipuler. Les experts répondent qu'une personne ne laisse pas d'office une trace ADN. La preuve, deux des victimes ont elles aussi touché cette porte sans laisser d'empreinte. Autre argument de la défense, on n'a pas retrouvé de trace ADN de Medine Mouche sur le drap présent dans la vidéo de revendication. Il est donc innocent. « Absurde, répond Bernard Michel. Aucune trace de personne n'a été retrouvée sur ce tissu, ce qui signifierait, si on suit la théorie de la défense, que personne n'a écrit dessus. » Toujours selon la défense, Medine Mouche est innocent, car il n'a pas opposé de résistance au moment de son arrestation à Marseille. Pour le procureur, Medine Mouche espérait peut-être jusqu'au dernier moment échapper à une fouille au corps. Il a peut-être aussi voulu un procès. Quant à la théorie du complot, impliquant le Mossad, mise en avant par les avocats de l'accusé, Bernard Michel rappelle que les époux Riva, deux des quatre victimes, n'ont jamais été agents secrets. Et sur les vidéos, à aucun moment le tireur ne se préoccupe de regarder qui il abat. Dernier argument de la défense, l'enquête est manipulée, tout le monde est pourri. Le procureur fédéral souligne le sérieux de l'enquête et il conclut « Je suis juste énervé par l'image que les avocats de Medine Mouche donnent de la justice. Quant au reste... »
Antoine Marette à Bruxelles pour ce procès de Medine Mouche. Le verdict sera rendu au début du mois de mars. 7h, bientôt 8 minutes sur France Culture. Au Royaume-Uni, l'option d'un second référendum est désormais sur la table. Le tabou est brisé par le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn. De son côté, la première ministre, Theresa May, envisage au moins dans un premier temps un report de la date du Brexit, fixée dans un peu plus d'un mois, le 29 mars. La question est débattue aujourd'hui par le gouvernement. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé au Vietnam cette nuit. Le pays doit accueillir le second tête-à-tête entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen. Le président américain souhaite toujours la dénucléarisation de la péninsule. Cette question épineuse va tenter de se régler donc au Vietnam, l'un des pays les plus attractifs d'Asie et qui cherche à profiter de ce sommet. Pour cela, la fête doit être parfaite. Dominique André, un sosie de Kim Jong-un, a d'ailleurs été expulsé hier par la police.
Howard Hicks, le célèbre sosie de Kim qui s'était illustré à Singapour l'an dernier, a été reconduit à la frontière direction Hong Kong où il réside. L'humour n'est pas au programme. Le Vietnam préfère mettre en valeur le coup de génie de Monsieur Tuan, petit coiffeur de Hanoï, qui propose des coupes Kim et Trump gratuites.
Quand j'ai publié les photos des coupes Kim et Trump sur ma page Facebook, le succès a été immédiat. La coupe de Kim est plus facile à faire parce qu'on a le même type de cheveux ici au Vietnam. Et puis Kim est plus jeune que Trump, ça plaît. Les cheveux de Trump sont longs et blonds, c'est pas facile de trouver ce type de cheveux ici.
C'est où Singapour ? 2 millions de questions ont été enregistrées par Google lors du premier sommet en 2018. Les professionnels du tourisme, comme Madame Mui, comptent sur le coup de projecteur du deuxième sommet.
Beaucoup de reporters du monde entier sont arrivés, ils vont parler du Vietnam, ça va peut-être attirer plus de touristes. Espérons aussi que les compagnies étrangères seront plus nombreuses à venir s'installer au Vietnam.
La couverture médiatique s'annonce énorme, 2600 journalistes sont accrédités pour le sommet.
Le reportage à Hanoï de Dominique André pour France Culture. Autre rencontre entre alliés de longue date, cette fois entre Bachar el-Assad, le président syrien, et son homologue Hassan Rouhani. Une visite hier à Téhéran, c'était la première depuis le début du conflit syrien en 2011. L'accueil de Bachar el-Assad en Iran fut très bon, leur Stéphane, puisqu'il a même été salué en héros par le guide suprême Ali Khamenei.
Sur les images filmées lors de sa rencontre avec le guide suprême Ali Khamenei, Bachar el-Assad est apparu détendu et souriant à Téhéran. Il est venu remercier l'Iran pour son soutien, un soutien militaire et financier qui a contribué avec l'appui apporté par la Russie à la survie du régime. Dans la capitale iranienne, le président syrien a aussi rencontré son homologue Hassan Rouhani. Ces réunions au sommet n'ont été rendues publiques que plusieurs heures après leur déroulement. Depuis le soulèvement populaire en 2011 qui a basculé dans la guerre, Bachar el-Assad n'a effectué que de très rares voyages à l'étranger. Avant l'Iran, la présidence avait communiqué uniquement sur des déplacements en Russie à deux reprises. Peu de détails ont filtré sur les entretiens. Téhéran comme Damas, qui sont isolés sur la scène internationale et font l'objet de sanctions américaines ou occidentales, ont tenu à afficher un front commun. Leur coopération va se poursuivre. Ces leaders affirment vouloir faire bloc, je cite, contre les ingérences occidentales au Moyen-Orient. Pour Téhéran, maintenir le régime syrien a toujours été d'ordre stratégique et son influence n'a cessé de se renforcer au fil du conflit. Malgré les pressions financières, le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que son pays, dont l'engagement est honni par les opposants syriens, poursuivra son soutien à Damas.
Les précisions à Beyrouth de Laure Stéphan. Le numéro 3 du Vatican, reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs. Le cardinal australien George Pell devient le plus haut responsable de l'Église condamné dans une affaire de pédophilie. Les faits remontent aux années 90. On y revient à 7h35 dans la revue de presse internationale. La revue de Le Temps de ce mardi, encore très ensoleillé et doux sur l'ensemble bleu du pays, marqué aussi par des épisodes de pollution aux particules fines en région parisienne, dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le Rhône. Des gelées à noter ce matin sur un grand quart nord-est. D'ailleurs, il fait entre moins 2 et 6. On montera jusqu'à 25 degrés cet après-midi au pied des Pyrénées. 7h12 sur France Culture. Les matins, c'est avec vous, Florian Delorme.
Merci, Maxime Fayolle. On vous retrouve à 7h30.